Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes. Facebook a fêté cette semaine ses 15 ans, oui, 15 ans déjà que le réseau social a été lancé depuis les dortoirs de Harvard. L'entreprise de Mark Zuckerberg est maintenant un mastodonte du web, avec une galaxie d'applications dans son portefeuille, tels Messenger, WhatsApp ou encore Instagram. Olivier Herched, un des meilleurs spécialistes français de Facebook, reviendra tout à l'heure avec nous sur ses 15 années. On s'interrogera aussi sur le futur du réseau social aux plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. En fin d'émission, Mondoblog Audio nous arrivera tout droit de Douala, au Cameroun, où Messenger facilite la vie de notre mondoblogueur ecclésiaste. Mais tout de suite, on va s'intéresser à une question qui a fait débat ces dernières semaines en France, celle de l'anonymat sur Internet.
RFI.
Bonjour Grégoire Pouget.
Bonjour.
Vous êtes président et cofondateur de Nothing to Hide, Rien à cacher, une association dont l'objectif est de mettre la technologie au service de la protection et de la diffusion de l'information. J'ai choisi de vous inviter aujourd'hui pour vous faire réagir à ces propos prononcés mi-janvier par le président français Emmanuel Macron. On l'écoute.
Ce que nous devons réussir à faire d'abord, c'est en quelque sorte une forme d'hygiène démocratique du statut de l'information. Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses.
Grégoire Pouget, est-ce souhaitable ou même envisageable de réduire l'anonymat sur Internet ?
Alors, déjà, l'anonymat sur Internet, c'est très compliqué à obtenir. Mais en deux mots, l'anonymat, c'est le fait de pouvoir publier quelque chose sur Internet sans qu'on n'ait aucun moyen d'identifier la personne qui l'a publié. C'est de le faire sous une identité qu'on ne peut absolument pas identifier. Ça, c'est très très compliqué. Ce qui existe beaucoup beaucoup plus sur Internet, c'est ce qu'on appelle le pseudonymat. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je publie quelque chose, mais je vais pas le faire sous mon nom Grégoire Pouget, je vais le faire sous un pseudo. Mais mon pseudo, c'est très facile de faire la correspondance entre mon pseudo et mon vrai nom. Et le véritable anonymat, c'est-à-dire publier quelque chose sous un pseudonyme, sous un faux nom, sous quelque chose qui n'est pas mon vrai nom, et faire en sorte d'identifier que c'est moi, Grégoire Pouget, qui l'ai publié, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de couches techniques qui permettent de remonter jusqu'à la personne qui a publié quelque chose sur Internet.
Alors, lorsqu'Emmanuel Macron se prononce pour la fin de l'anonymat sur Internet, est-ce que vous le comprenez ?
Alors, je comprends ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut signifier. Après, je ne comprends pas pourquoi il propose ça. En fait, d'après ce que j'ai compris, Emmanuel Macron dit qu'il faut supprimer l'anonymat progressivement pour faire en sorte de fluidifier les débats et faire qu'il y ait moins de haine en ligne, moins d'appels à la haine, de propos violents. En fait, je crois que le problème n'est pas là. Déjà, encore une fois, l'anonymat, c'est très difficile à obtenir sur Internet. Il faut être, on va dire, quasiment informaticien pour y arriver ou connaître les outils qui permettent de le faire. Et la deuxième chose, c'est que lui, il vise, j'ai l'impression que dans ses propos, il vise beaucoup la circulation de rumeurs, de ce qu'on appelle des fausses informations. Et ces rumeurs, ces fausses informations, c'est pas l'anonymat qui fait qu'elles circulent. En fait, c'est les plateformes
comme Facebook, Twitter,
sur lesquelles sont publiées des fausses informations. On l'a vu pendant la campagne du Brexit, on l'a vu pendant les élections américaines qui ont vu Trump être élu. En fait, ce sont ces fausses informations qui circulent sur ces plateformes. Et ces plateformes les relaient de manière extrêmement virale. Et c'est pas forcément de lever l'anonymat qui va résoudre le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait donner une responsabilité juridique à Facebook, par exemple. Alors, pourquoi ces fausses informations circulent beaucoup plus vite que les vraies informations? C'est également, ces plateformes-là, en fait, favorisent les informations qui créent ce qu'on appelle de l'engagement. L'engagement, c'est quand je vois quelque chose sur mon profil, sur mon mur Facebook, je vois quelque chose qui me donne envie de cliquer, de réagir, c'est ça l'engagement. Et en fait, les fausses nouvelles, statistiquement, génèrent beaucoup plus d'engagement que un papier de fond, un article de fond sur la politique internationale ou la politique française. Et en fait, ces plateformes-là, Facebook, vivent de l'engagement. Et en fait, les algorithmes de ces plateformes favorisent l'engagement et donc la circulation de fausses informations.
Au mois de décembre, nous avons consacré une émission à Facebook et au mouvement des Gilets jaunes, où il y avait des universitaires qui nous expliquaient que, au final, sur Facebook, les gens utilisaient très souvent leur véritable identité et qu'ils s'exprimaient en quelque sorte sans filtre, puisqu'ils, grâce au phénomène des bulles de filtre, ils avaient l'impression de toute façon de parler à des amis ou à des personnes qu'ils connaissent déjà, et donc n'avaient pas peur d'exprimer réellement ce qu'ils pensaient. Est-ce que le problème est peut-être aussi là, et pas forcément une question d'anonymat, mais aussi de la façon dont les gens s'expriment tout simplement?
Bah bien sûr, parce que ces plateformes, encore une fois, pour créer de l'engagement, pour créer le fait que moi, en tant qu'utilisateur, je vais publier plus de choses chez elles, parce que en fait, c'est leur modèle économique, eh bien, elles me donnent l'impression que je suis en fait dans mon salon. Et bien sûr, le fait de faire ça, en fait, il faudrait vraiment expliquer aux gens qui publient des choses sur Facebook, c'est une question d'éducation, il faudrait leur dire non, vous publiez quelque chose, vous avez une responsabilité, c'est accessible en ligne, tout le monde peut le lire, vous pouvez pas publier n'importe quoi. Et en fait, moi, j'ai jamais vu ce type d'avertissement sur une plateforme comme Facebook ou Twitter, jamais.
Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique en France, a rattrapé les propos d'Emmanuel Macron en précisant que l'idée était que les Français s'expriment sous leur véritable identité et pas anonymement, mais uniquement sur certaines plateformes dédiées, et notamment des plateformes gouvernementales lorsqu'il y aurait des grands débats en ligne, et que là, évidemment, on les inviterait à contribuer sur leur véritable identité. Mais on se rend bien compte que il serait totalement inenvisageable qu'à l'échelle mondiale, les plateformes s'accordent pour qu'il y ait une identité numérique propre à chacun.
Alors, je pense que si on va dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Ça voudrait dire que on n'aurait plus le droit d'être anonyme ou même de publier des choses sous pseudonymat en ligne. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que une plateforme dise, bah, si tu veux publier des choses chez moi, les règles sont celles-ci, tu dois le faire sous ton vrai nom, etc., etc. À la limite, pourquoi pas?
Déjà, est-ce que cela existe déjà?
Ah, bien sûr, Facebook, à un moment donné, a exigé de ses utilisateurs qu'ils utilisent leur vrai nom.
Alors, c'était notamment lorsque l'on souhaitait créer une page Facebook, mais pas pour un profil personnel, à ma connaissance.
Oui, bah, ça commençait par les pages. En effet, c'est vrai. Alors, pour les profils personnels, on a encore le droit de le faire sous pseudonyme.
Sauf si l'on souhaite avoir une identité certifiée, vérifiée, avec un petit badge bleu qui précise qui l'on est.
Voilà. Alors, qu'une plateforme ait ses règles, à la limite, pourquoi pas? Facebook a proposé ça. Alors, à ma connaissance, les plateformes qui obligent leurs utilisateurs à s'inscrire sous leur vrai nom, ce sont des plateformes qu'on ne connaît pas trop en France, mais qui existent dans d'autres pays, comme notamment la Chine, Weibo, les équivalents de Facebook en Chine, impose aux internautes qui s'inscrivent avec leur vrai nom. Alors, est-ce qu'on a envie d'aller vers le modèle chinois qui est tout sauf une démocratie? Moi, en tout cas personnellement, je n'ai pas envie. Ça, c'est la première chose. C'est la règle des plateformes. Ensuite, si on dit, on impose au niveau mondial, si on fait une loi en France qui dit on doit s'inscrire avec son vrai nom, alors c'est un très très mauvais signal envoyé aux pays qui vont dire parce qu'on veut, on peut dire oui, on est en France, on est un état de droit, si on peut publier des choses sous son vrai nom, on va pas avoir de problème. Alors premièrement, c'est pas vrai. Par exemple, moi, si je travaille pour une entreprise et que j'ai des positions politiques et que j'ai envie de les exprimer en ligne, eh bien, peut-être que j'ai pas envie que mon patron soit au courant, parce qu'on peut avoir des positions politiques différentes. Et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir le faire sous un pseudo, pas forcément de manière anonyme, mais au moins sous un pseudo.
Donc, vous estimez que pseudonymat et anonymat sont garants de la liberté d'expression?
Alors,
également,
moi, à titre personnel, je pense que c'est fondamentalement vrai. Par ailleurs, il y a des gens qui ont un peu plus pensé à ces choses-là que moi, notamment l'ONU. En fait, il y a un rapporteur spécial à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion à l'ONU. Ce monsieur s'appelle David Kay. En 2016, il a publié un rapport sur le chiffrement et l'anonymat. Et dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc que le chiffrement et l'anonymat favorisent, sont des conditions nécessaires à la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Alors, pour plusieurs choses, la liberté d'expression, parce que quand on est journaliste, on a également besoin de pouvoir travailler de manière anonyme. Par exemple, un exemple très très rapide, si moi je suis journaliste et que je veux enquêter sur une entreprise en ligne, que je veux parcourir les documents, les récupérer, eh bien j'ai plutôt intérêt à le faire avec une autre adresse IP, avec des choses qui feront en sorte que je n'ai pas être identifié comme journaliste, parce que sinon je risque de griller mon enquête.
Donc là vous allez utiliser des outils d'anonymisation comme Tor par exemple?
Exactement, je pourrais utiliser un outil comme Tor qui masque mon adresse IP, qui change mon adresse IP et tous les paramètres techniques qui permettent de m'identifier. Pour aller voir Tor, on peut aller sur torproject.org. Alors première chose, pour les journalistes, et dans ce rapport, il écrit, dans le rapport de David Kay, il écrit aussi que le chiffrement et l'anonymat créent des espaces nécessaires dans lesquels on peut publier des choses sous autre chose que son vrai nom, et qui permettent justement aux gens d'avoir une respiration, de pouvoir dire, bah moi, par exemple, je pense que politiquement, j'ai ces idées-là, et j'ai envie de les publier, je vais le faire sous pseudo, parce que si je le fais sous mon vrai nom, je risque, c'est ce qu'on appelle le chilling effect en anglais, en français on dirait de l'autocensure, c'est-à-dire que si je peux pas publier des choses sous mon vrai nom, eh bien en fait je vais arrêter de publier des choses, mes opinions, donc je vais m'auto-restreindre, je vais restreindre ma propre liberté d'expression et ma propre liberté d'opinion. Donc l'anonymat c'est quelque chose de capital, et on ne peut pas le supprimer, sinon on va porter atteinte à la liberté d'expression, liberté d'opinion.
Merci beaucoup Grégoire Pouget, je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Nothing to Hide, nothingtohide.org.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
On poursuit avec quelques informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de l'atelier des médias cette semaine. C'est une première, 10 grands groupes de médias français vont proposer aux internautes d'avoir un identifiant unique leur permettant de se connecter sur un total de 80 sites de presse comme L'Équipe ou encore Le Figaro. Au-delà du fait que cela va faciliter la vie des internautes férus d'informations, cela permettra à ces médias de mieux connaître ses utilisateurs et de leur proposer des publicités ciblées et des services personnalisés. En France, toujours, la rédaction du site d'information Mediapart s'est opposée lundi à une perquisition de la police dans ses locaux. Le but des policiers était de saisir des enregistrements clandestins d'une conversation à laquelle participait l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, publié la semaine précédente par le site d'information. Pour les journalistes de Mediapart, les autorités françaises veulent s'attaquer au secret des sources. On a d'ailleurs appris que c'est le directeur de cabinet du Premier ministre qui a lui-même transmis des informations au procureur de Paris, affirmant vouloir ainsi faire preuve de transparence. C'est un excès de zèle qui fait polémique ces derniers jours en France. Et puis, la plateforme d'écoute de musique en ligne Spotify a confirmé mercredi l'achat de deux sociétés de podcast, Gimlet et Anchor. Le montant des rachats n'a pas été communiqué, mais il faut sans doute voir là l'acte de naissance d'un nouveau marché, celui des podcasts. Le PDG de Spotify pense que les contenus non musicaux représenteront bientôt 20% des écoutes totales sur sa plateforme.
RFI.
Je le disais en introduction, Facebook a 15 ans. Le réseau social de Mark Zuckerberg a été mis en ligne le 4 février 2004. 15 ans plus tard, un quart de l'humanité y a un profil. 2,3 milliards d'utilisateurs s'y connectent au moins une fois par mois, 1,5 milliard chaque jour. Pour en parler, j'ai contacté Olivier Herched. Il est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Nantes, auteur du blog affordance.info et du livre « L'appétit des géants » paru chez CEF Éditions. Bonjour Olivier Herched.
Bonjour.
Olivier Herched, le 4 février 2004, Facebook était mis en ligne, The Facebook, cela s'appelait à l'origine. Oui. Et 15 ans plus tard, un quart de l'humanité, la moitié de celle qui a accès à Internet, est inscrite sur Facebook. Cela représente 2,3 milliards d'utilisateurs actifs par mois et 1,5 milliard d'utilisateurs actifs par jour, selon Facebook. Facebook a remplacé la presse et le café du commerce dans de nombreux pays. Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, il les a pas remplacés en totalité, heureusement, à la fois pour la presse et pour le café du commerce. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un glissement qui s'est effectué en termes de, à la fois de temporalité et de lieu de socialisation aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, Facebook est une plateforme, mais qui est une plateforme au départ à usage unique, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, quand The Facebook a été créé, c'était vraiment dans le but uniquement de se faire rencontrer des étudiants sur différents campus américains. Et puis très vite, il y a des nouveaux usages qui se sont greffés là-dessus et qui ont capté d'autres usages d'accès à l'information, des usages aussi de des usages culturels, des usages de distraction, des usages voilà, donc autour de cette plateforme se sont agrégés effectivement à la fois des dimensions qui relèvent de l'accès à l'information, de la presse, des médias, et puis aussi une dimension plus personnelle et plus privée qui capte là aussi beaucoup de nos échanges entre pairs, à l'intérieur d'une famille, entre collègues, entre amis. Et derrière, le fait que tout ça se concentre sur cette plateforme unique avec des enjeux publicitaires et un modèle économique qui est la gratuité en échange de cette collecte de données, bah, pose aujourd'hui, effectivement, on regarde des chiffres que vous avez rappelés, des énormes problèmes sur la démocratie, sur sur les espaces de revendication qui existent. Voilà.
Facebook, on peut le dire, est unique. Jamais dans l'histoire, un média n'a touché autant de gens.
Oui, c'est la première fois, effectivement. Il n'y a pas, dans quels que soient les médias qu'on regarde sur le temps long, jamais un média n'a été en capacité non seulement de toucher autant de gens, d'autant de cultures différentes, sur autant de continents différents, mais surtout, jamais aucun média n'a été capable de faire ça en aussi peu de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on fête les 15 ans de Facebook, qu'il s'agisse, encore une fois, de la presse, de la radio, de la télé. Quand on regarde comment ces médias se sont constitués, ils se sont constitués toujours sur le temps long, et les audiences ont accompagné ce temps long. Avec Facebook, avec le numérique d'ailleurs en général, c'est pour ça que c'est aussi compliqué toujours d'analyser ça un petit peu à froid, on est vraiment sur des temporalités qui sont extrêmement réduites et qui modèlent, qui font émerger des usages tout à fait inédits, qui peuvent avoir tendance à se stabiliser. Peut-être que dans 15 ans ou 20 ans, si Facebook est encore là, on en aura un autre usage. Peut-être que certains aspects du réseau social auront été totalement gommés ou auront pris le pas sur d'autres. Mais ce qui est compliqué, ce qui est fascinant aussi à observer, c'est effectivement la rapidité avec laquelle ce média émerge, le public qu'il est capable de toucher, et puis sa capacité de produire, du coup, aussi, ou d'induire, en tout cas, un certain nombre de comportements sociaux, d'attitudes, et de produire de la norme, de dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas.
Si on devait essayer de chercher des points positifs là-dedans, quelle est la réussite de Facebook? C'est déjà d'avoir créé un nouvel espace discursif?
Oui, enfin, en tout cas, moi, je reste convaincu qu'effectivement, ce qu'a permis Facebook, c'est, et on l'a vu, alors on l'a vu aussi bien dans le cadre de la dernière crise des Gilets jaunes qu'on l'avait vu avant dans le cadre, par exemple, des révolutions du printemps arabe, c'est une plateforme qui a permis à des gens qui n'avaient pas accès à un espace de parole et de revendication de créer cet espace de parole et de le structurer et d'avoir un impact, de peser sur des régimes politiques ou sur des questions de société. Et ça, effectivement, pour ça, je pense que Facebook a réussi son pari qui était, dans le discours marketing en tout cas, de réunir des gens qui ne pourraient pas le faire sans cette plateforme. Après, les questions qui se posent, c'est effectivement pourquoi est-ce que Facebook fait ça, ou plus exactement, en permettant cela, quels sont les risques et les opportunités que Facebook est prêt derrière à assumer ou à rejeter.
Alors justement, pendant les révolutions arabes de 2010-2011, on a dit que Facebook avait aidé à faire avancer la démocratie, notamment en Tunisie. Mais depuis un an et demi, deux ans, on dit presque totalement le contraire, que Facebook est purement et simplement nuisible à la démocratie. Qu'en pensez-vous?
Eh ben ça, j'en pense que ça traduit en tout cas effectivement ce dont on parlait tout à l'heure sur la question des temporalités. Il y a une chercheuse qui s'appelle Zeynep Tufekci qui se présente comme sociologue des techniques et qui explique très bien que, en reprenant notamment l'exemple des révolutions et du printemps arabe, que Facebook permet de déclencher des révolutions mais ne permet jamais de les gagner. Et pourquoi il ne permet jamais de les gagner? Ben parce que derrière, cette plateforme qui permet à des citoyens privés privée du droit de s'exprimer, par exemple, de se coordonner, de se retrouver, cette plateforme, elle est ensuite, derrière, immédiatement reprise et réinstrumentalisée différemment par le régime, qui peut être le régime de l'oppresseur, si on prend le cas de certaines révolutions arabes, et elle se retourne finalement contre les gens qui s'en étaient servis au départ dans une logique d'émancipation. Donc c'est toujours des outils qui sont des outils bifaces et dont on peut se servir effectivement pour construire des espaces démocratiques ou pour réprimer et opprimer encore davantage les gens qui tentent d'investir ces espaces-là.
Lorsque l'on parle de Facebook maintenant, c'est aussi d'une galaxie d'applications que l'on parle. Citons les trois plus connus, Messenger, WhatsApp et Instagram. Des rumeurs dernièrement, il a été imaginé que toutes pourraient fusionner et ne faire qu'une. Ouais. Est-ce qu'à à votre sens, c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable ou pas du tout?
Alors, effectivement, sur la logique qui voudrait, encore une fois, remettre une couche de centralisation, alors est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, puisqu'encore une fois, les trois outils dont on parle là appartiennent à la même société mère. Donc, Zuckerberg, à ce titre-là, fait à peu près ce qu'il veut dans le cadre, évidemment, de plans qui sont validés par son actionnariat et les différents responsables des applications. Est-ce que c'est souhaitable Je reste convaincu que à l'échelle du numérique et à l'échelle du web et des plateformes, plus il y a de centralisation et plus c'est compliqué, plus c'est dangereux et plus on s'éloigne de l'esprit originel du web et de ce qu'il était supposé permettre de faire. Donc, a fortiori, quand on regarde quels sont aujourd'hui les problèmes auxquels fait face Facebook en termes effectivement de vie privée, de confidentialité, on va dire qu'à minima le timing de cette annonce ou de cette non-annonce, de cette hypothèse n'était pas le bon, et que si c'est possible, en l'état, ce n'est pas du tout souhaitable, puisqu'on voit bien de quelle manière ça pourrait multiplier en quelque sorte les dérives qui sont déjà attestées de Facebook sur le droit à la vie privée, là on a vu récemment qu'on a découvert qu'il avait effectivement proposé de payer des utilisateurs, dont des mineurs, pour installer des espèces de fichiers mouchards sur leur téléphone portable pour regarder ce qu'ils faisaient en dehors de Facebook précisément. Donc non, ça ne me paraît pas être une bonne idée, non.
Vous êtes un universitaire et Facebook, c'est aussi une mine d'informations pour les historiens, pour les sociologues. Mais ces informations sont sur des serveurs contrôlés par une entreprise américaine qui n'a pas forcément envie de les partager. Est-ce qu'il faudrait peut-être un jour que, passé une certaine date, Facebook rende ces données accessibles aux chercheurs, au moins au monde universitaire?
Alors, ce serait effectivement... C'est en tout cas une mine d'or, c'est-à-dire c'est un corpus pour les universitaires qui, à la fois du point de vue de la sociologie, mais aussi du point de vue de la statistique, des comportements connectés, sur des enjeux politiques, c'est une mine d'or et qui est totalement inédite par son volume et par sa nature. C'est-à-dire que si l'on avait accès à la totalité des informations partagées sur Facebook, on serait capable, sur n'importe quel sujet de société par exemple, de produire des analyses que l'on ne peut pas produire aujourd'hui, puisque toutes ces interactions sont captées par cette plateforme et conservées dans un espace qui est hors du champ scientifique et donc démocratique. Alors il y a des efforts qui sont faits par Facebook par des programmes de recherche qui permettent à certains scientifiques habilités d'avoir accès à une partie des données qui sont collectées, une fois qu'elles sont par exemple anonymisées. Mais l'enjeu effectivement pour le futur, la question se pose d'ailleurs autant pour Facebook que pour YouTube ou que pour Twitter, c'est on ne sera plus capable de comprendre notre époque dans 50, 100, 200 ans si l'on n'a pas accès à ce qui s'est dit sur Facebook. On ne pourra pas comprendre, par exemple, la crise des Gilets jaunes dans deux siècles si on n'est pas capable de bâtir un corpus qui va reposer notamment sur ce qu'il s'est dit dans les groupes dans les groupes Facebook qui ont favorisé l'émergence de ce mouvement. Donc ça, c'est une vraie question, mais c'est une vieille question dans le domaine des sciences, c'est la question de l'archive et la question du statut public de cette archive. Et pour l'instant, dans notre société, Quel que soit le sujet, quel que soit l'enjeu, on constate qu'effectivement, la plupart de ce qui était avant, ce qui pouvait s'inscrire dans le cadre d'une archive publique, est aujourd'hui totalement capté et préempté par des plateformes privées. Et donc, on en est remis à leur bon vouloir. Est-ce qu'elles accepteront, dans quel contexte, sous quelles conditions, de rendre public de nouveau ce qui nous concerne finalement un petit peu tous quand même, puisque l'ambivalence profonde de ces plateformes, elle vient du fait que ce sont des plateformes privées, mais que par l'audience qu'elles atteignent, on ne peut pas considérer qu'un média qui touche quotidiennement 2 milliards d'utilisateurs soit un média privé. On voit bien qu'il y a une dimension publique qui est presque intrinsèque et obligatoire. Donc il faut effectivement, à mon avis, essayer d'amener cette question du rendu public des données au centre du débat politique.
En début de semaine, sur votre blog affordance.info, vous expliquiez justement que Facebook est un espace fermé, un espace privé, où faire publicité l'emporte sur rendre public. Or, vous estimez, et je partage votre point de vue, que la grande question de demain sera celle de l'espace public. Un espace public où il y aura deux catégories, ceux qui construisent des murs et ceux qui les font tomber. Or, pour vous, Mark Zuckerberg est une personne qui construit des murs en développant et en essayant de faire encore plus grossir un ogre qui s'appelle Facebook, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comment dire, au-delà d'une certaine taille, au-delà d'un certain seuil, les questions de la question du statut public des données qui sont collectées doit se poser. Il y a quelques années de ça, quand un certain nombre de scientifiques ou d'éditorialistes un petit peu marginaux commençaient à poser cette question d'une nationalisation des plateformes, tout le monde les regardait de haut en disant « mais qu'est-ce que vous racontez ? On n'est pas une dictature communiste, etc. etc. » Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je dirais pas que c'est un discours qui est devenu mainstream, mais en tout cas, on voit se poser, il y a eu pas mal d'articles ces deux dernières années dans des très grands quotidiens webdo anglo-américains. On voit se poser la question effectivement d'une nationalisation de ces plateformes parce qu'elles fonctionnent d'abord sur une infrastructure publique la plupart du temps, qui est l'architecture Internet. Hein. Encore une fois, Facebook, Twitter et les autres n'existent, Google aussi d'ailleurs, que parce qu'ils reposent sur ce qui est une infrastructure publique de télécommunication. Mais ensuite, ces plateformes elles-mêmes sont devenues tellement incontournables dans certains usages qu'elles acquièrent presque nécessairement une forme de statut hybride qui fait d'elle quelque part aussi des biens publics, puisque si l'on n'a plus accès aujourd'hui à Google, par exemple, ou à Facebook, ou à Twitter dans un certain nombre d'autres contextes, eh bien de fait, on est privé d'un certain nombre de possibilités et d'options et de choix en tant que citoyen.
Et dans le biais que vous avez publié en début de semaine sur votre blog, justement, vous invitez Mark Zuckerberg à faire de Facebook un bien public, un bien commun, et vous dites que le temps est compté et vous estimez qu'il lui reste 3 ans pour achever cela.
Oui, alors j'ai pris cette barrière de 3 ans pour 2 raisons. D'abord parce que 15 plus 3, ça fait 18 et que c'est effectivement l'âge de la majorité légale.
En France, alors que c'est 21 ans aux États-Unis.
En France, exactement, en France, effectivement. Et l'autre raison, c'est qu'effectivement, dans les prochaines années, dans les 3 à 4 prochaines années, dans tous les pays et sur tous les continents vont se produire un certain nombre de phénomènes et d'élections politiques majeures et déterminantes. Et qu'aujourd'hui, on l'a vu malheureusement avec le scandale Cambridge Analytica, le Brexit, l'élection de Trump, on sait qu'une des questions absolument centrale sur l'avenir de Facebook, c'est sa capacité à être transparent sur le rôle qu'il pourrait jouer dans l'influence sur une campagne électorale ou sur une élection. Donc si Facebook continue dans la logique qui est la sienne, c'est-à-dire continuer de capter des données d'opinion toujours plus qualifiées, notamment sur le champ du politique, et de pouvoir mettre ces données à disposition de sociétés tierces ou d'États qui vont s'en servir pour faire de l'influence et pour peser sur des résultats électoraux, bah Facebook, à ce moment-là, non seulement va avoir un très très gros problème d'image, un petit peu comme celui qu'il a à l'heure actuelle, mais collectivement, à l'échelle de nos démocraties, on va aussi avoir un énorme problème politique. Et c'est pour ça que la question du passage, si j'ose dire, au statut de bien public ou de bien commun du réseau social se pose aujourd'hui avec une urgence qui est directement corrélée à ce que l'on sait être, sa capacité d'agir et d'influencer sur... d'interférer en tout cas avec des processus politiques et des processus électoraux. S'il ne le fait pas maintenant, si on ne pose pas en tout cas nous, en tant que citoyens, en tant qu'universitaires, que chercheurs, cette question-là maintenant, dans 3 ans ou dans 4 ans, il sera trop tard pour la poser, parce qu'en plus, avec la montée effectivement qu'on voit arriver, qui est celle des populismes, on voit bien l'usage qui peut être fait aussi de ces données par des gouvernements qui ne seraient plus des gouvernements totalement démocratiques.
Vous et moi avons rejoint Facebook en 2007 et vous et moi sommes toujours sur Facebook. Quel serait votre conseil aux auditeurs qui nous écoutent? De rester sur Facebook, d'en partir? Je pose volontairement la question de façon fermée.
Ouais, ouais. Et bien, écoute, mon conseil, ce serait de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'obligation morale à quitter Facebook à partir du moment où... individuellement, on est capable effectivement d'entendre le discours qui est de plus en plus présent et prégnant dans la société, dans les médias, etc., sur les risques potentiels de cette technologie et de ces plateformes-là. Moi, je suis enseignant-chercheur, donc il y a le côté chercheur, il y a le côté enseignant, donc je crois que l'essentiel des problèmes que pose Facebook ou d'autres peut être réglé par le biais de l'éducation, et que quand on sait comment fonctionne une technologie, quel est son modèle économique, quels sont ses enjeux, quels sont les risques, l'usage de cette technologie, ou les bénéfices d'ailleurs, peut poser à l'échelle d'une société et peut poser pour nous-mêmes. Une fois qu'on sait tout ça, on a quasiment résolu le problème. Et Facebook n'est plus toxique et n'est plus en situation d'agir de manière toxique. Et puis je ne crois pas à l'interdiction, donc je crois qu'il est tout à fait contre-productif. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu différents mouvements... repérable avec notamment le hashtag delete Facebook ou quit Facebook. Ces mouvements-là n'ont concrètement abouti à pas grand-chose, parce qu'effectivement, on n'impose pas aux gens, on ne décrète pas l'interdiction de l'usage d'un outil quel qu'il soit. Ça produit en général l'effet inverse et c'est bénéfique pour personne. Il vaut mieux expliquer les services que Facebook rend et les dangers qu'il peut poser, plutôt que de contraindre sous une forme ou sous une autre, ou d'expliquer doctement qu'il n'y a pas d'autre solution que de se déconnecter et d'arrêter d'utiliser Facebook.
Parce que si l'on regarde les chiffres, Facebook va très bien. Facebook continue à gagner des utilisateurs, Facebook continue à maximiser les profits. On se met du côté de Mark Zuckerberg, tout va très bien.
Ben, tout va bien, il y a un effet paradoxal, alors qu'il a aussi est assez amusant, mais assez classique à observer, c'est-à-dire que malgré les différents scandales, malgré un discours, encore une fois, citoyen et médiatique qui est de plus en plus présent et qui explique quels sont les potentiels dangers ou la potentielle nocivité de cette plateforme-là, ben, malgré tout ça...
Et malgré une communication de Facebook qui n'est pas exemplaire, optimale.
Voilà, on va dire ça comme ça, oui, parce qu'effectivement, ils ont un petit peu de mal là, en ce moment, mais malgré tout ça, le modèle économique marche, et malgré tout ça, il n'y a pas de fuite en avant des utilisateurs. Alors ça s'explique, pour être assez court et simple, de deux manières principales. La première, c'est que il y a déjà beaucoup de gens qui avaient presque quitté Facebook dans les usages en termes de génération, parce qu'ils ont basculé sur d'autres réseaux sociaux. Moi, j'enseigne avec des publics, par exemple, de DUT, des jeunes qui ont entre 18 et 22 ans, pour faire simple. La plupart d'entre eux, ils ont un compte Facebook, mais ils n'y vont jamais, ils ne s'en servent jamais. Ils sont tous, par contre, effectivement, sur Instagram ou sur Snapchat. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que quand on utilise un outil, de la même manière que quand on regarde une émission de télévision un petit peu débile ou idiote, j'en citerai pas, on peut avoir intellectuellement la pleine conscience qu'on n'est pas en train de se nourrir intellectuellement, mais ça ne nous empêche pas d'avoir besoin, effectivement, de ces petits shoots d'adrénaline ou de ces petits shoots de distraction où on met le cerveau un petit peu sur off et où on fait autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en même temps citoyen et utilisateur. Quand on est utilisateur d'une plateforme, quand on est spectateur d'un programme de télévision, on n'a pas toujours notre cerveau citoyen en éveil qui nous dit « attention, tu es en train de regarder n'importe quoi » ou « le fait de regarder cette émission ne va rien t'apporter ». Donc, il faut arriver à conjuguer les deux, et c'est ce qui explique aussi que encore une fois, il n'y a pas de baisse significative de gens qui qui fuiraient Facebook, alors que de plus en plus de gens ont clairement conscience, hein, quand on leur pose la question, quand on fait des enquêtes sociologiques, tous les gens à qui on pose la question sont de plus en plus au courant de ces scandales, au courant de ces dangers, au courant des erreurs de communication de Facebook. Mais malgré cela, effectivement, ils restent sur l'outil parce que le rapport bénéfice-risque pour eux est encore du côté des bénéfices plutôt que du risque.
Merci Olivier Hertzied.
Avec plaisir.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui nous emmène au Cameroun, où le blogueur Ecclésiaste de Djuy raconte dans un billet comment Facebook Messenger lui facilite la vie et notamment lui permet d'entreprendre des démarches auprès de la gente féminine.
La vie est dure, hein, je vous dis vrai. Quand tu rencontres une jolie fille dans la rue, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour l'aborder. Lorsque tu es dans un entretien d'embauche, tu ne sais même pas ce que tu vas dire au type assis en face de toi qui te pose ces questions stupides comme « Vous aimeriez gagner quel salaire ?» Parfois, quand tu es tranquillement assis chez toi, tu ne sais même pas lesquels de tes amis sont disponibles là pour te voir. Alors que si tu étais sur Facebook Messenger, la vie serait facile pour toi comme bonjour. Sur Facebook Messenger, la drague n'est même pas un problème. Est-ce que sur Messenger, il y a le stress lorsque tu veux courtiser une Facebookeuse ? Non. Et en plus, tu n'as même pas de Malta à lui offrir. Tu te caches simplement derrière ton clavier, tu utilises des copier-coller, puis tu lui balances tout ce que tu penses, et surtout ce que tu ne penses pas. Tu peux même faire mieux. Tu peux baratiner 15 filles au même moment. Est-ce que je mens? Sur Facebook Messenger, les amitiés sont amicales. Massa, tu te plains que tu n'as pas de potes, alors que tu peux avoir jusqu'à 4000 amis sur Messenger. Tu as même comment? Donc quand je vous dis que la vie là-bas n'est pas très compliquée, vous croyez vraiment que c'est de la blague? Voilà, si tu veux connaître mes autres conseils pour pouvoir draguer facilement sur Facebook Messenger, tu n'as qu'à aller sur mon blog, ashuka.mondoblog.org.
Qui n'a jamais utilisé Messenger pour draguer? Vous venez d'entendre le mondoblogueur Ecclésiaste de Djuy qui tient Ashuka, le blog des Camerounaiseries. Et rendez-vous, je vous le rappelle, sur mondoblog.org pour réécouter tous les mondoblogs audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Deloche, réalisation Simon Decreuse, Steven Jambot au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. On parlera vidéo mobile. D'ici là, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.